comptait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous sommes là donc au tout début de l'histoire de l'Église. On peut dire en quelque sorte que nous assistons à sa naissance. C'est le jour de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu est descendu. Les croyants ont été baptisés du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre a surgi des rangs et devant cette grande foule qui s'était rassemblée, il a prêché l'Évangile avec vraiment une puissance remarquable. Et suite à cette prédication, nous l'avons lu, eh bien 3000 se sont engagés par le baptême envers le Seigneur. C'est ainsi, vous voyez, que l'Église a été formée, qu'elle est venue en quelque sorte à la vie. Alors, je voudrais m'entretenir avec vous ce matin au sujet justement de l'Église, en posant une question et en essayant de faire en sorte, bien sûr, que la parole de Dieu nous y réponde. Cette question, c'est la suivante. L'Église, pourquoi faire au fait? L'Église, pourquoi faire? Alors, tout d'abord, un petit peu de vocabulaire. Le mot « église » est la traduction en français d'un terme qui signifie littéralement « ceux qui sont appelés au dehors ».« Ceux qui sont appelés au dehors ». Ce mot, dans les cités grecques de l'Antiquité, désignait, non pas des croyants au départ, mais désignait la communauté des citoyens qui étaient convoqués pour débattre des affaires publiques. Voilà, c'était le mot qui était employé dans ce sens-là, et qui fut donc appliqué aux chrétiens, et appliqué aux chrétiens, ce mot désigne la communauté de ceux qui sont appelés hors du monde. Ceux qui sont appelés hors, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, qui sont appelés hors du monde pour devenir disciples de Jésus. Donc, voyez, nous voyons déjà que l'Église, ça n'est pas un bâtiment dans lequel des croyants se réunissent de temps en temps pour des cérémonies religieuses. L'Église, ce n'est pas non plus une organisation créée par des gens qui partagent eh bien, les mêmes idées sur le plan philosophique ou religieux. Non, l'Église, c'est un organisme vivant. Un organisme vivant, animé de la vie de Christ, de cette vie divine que le Seigneur Jésus a insufflé, a communiqué à son Église au travers de son Esprit. Alors, il faut que nous comprenions quel est le sens de notre appartenance à l'Église. Quelqu'un disait récemment, qui n'est pas parmi nous ce matin, rassurez-vous, quelqu'un disait récemment, j'appartiens à Jésus, mais je n'appartiens pas à l'Église. Voilà, j'appartiens à Jésus parce que je me suis converti, parce que j'ai fait une expérience spirituelle, parce que le Seigneur est passé par là, il a pardonné mes péchés, etc. Il a donné un sens nouveau à ma vie, mais je me refuse d'appartenir à l'Église. C'est là, voyez-vous, une conception individualiste de la vie chrétienne qui est fausse et dangereuse. Fausse et dangereuse. En tout cas, nous voyons à la lumière de la parole de Dieu que les premiers chrétiens ne l'entendaient pas ainsi, voyez, puisque dans le texte qui nous occupe ce matin, au verset 47, le dernier des versets que nous avons lus, il est dit que le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. On était d'abord sauvés, on était d'abord régénérés par la grâce de Dieu, après avoir entendu l'Évangile, après que le Saint-Esprit eut fait une œuvre de régénération, de nouvelle naissance, on recevait le salut, la vie éternelle, quoi, par la foi en Christ, et par la même étant sauvé, on était, par l'Esprit de Dieu lui-même, ajouté à l'Église. Le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous savez que dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, au verset 18, Jésus dira, « Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. » Ainsi, l'Église n'est pas l'Église du pasteur ou des pasteurs, mais l'Église de Christ. Il en est le fondateur, il en est le fondement suprême, il en est le bâtisseur par excellence, même s'il emploie, il est vrai, des ouvriers humains dans cette tâche. J'ai été très heureux tout à l'heure d'entendre notre frère Aram nous lire ce texte de l'Épître aux Éphésiens, parce qu'il se trouve que ce texte, justement, eh bien, il est inclus dans la prédication de ce matin, au chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens. Il est dit ceci: « Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, en Jésus, tout l'édifice, édifice spirituel, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, en Jésus, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Vous voyez ? Voilà. Jésus est le fondement suprême, le bâtisseur par excellence, et que son nom soit béni. Nous devons prendre conscience de ce qu'il en a coûté justement au Seigneur Jésus pour que son Église soit amenée à l'existence. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais la création, la fondation de l'Église de Jésus est en relation directe avec son sacrifice accompli à la croix du Calvaire. Par exemple, dans cette même épître aux Éphésiens, au chapitre 5, au verset 25, il est dit « Marie, aimez vos femmes », c'est pas interdit de faire, soit dit en passant, « comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. » Il s'est livré lui-même pour elle. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous individuellement et personnellement, mais il a donné sa vie aussi pour l'Église dans sa globalité. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, au verset 28, l'apôtre Paul, eh bien, fait un discours aux anciens, aux responsables de l'Église d'Éphèse qu'il a convoqué, et il leur rappelle que l'Église, Jésus se l'est acquise par son propre sang. L'Église, Jésus se l'est acquise par son propre sang. Chers amis, frères et sœurs, pour que nous soyons là ce matin, non pas seulement individuellement, mais que nous soyons là collectivement, unis dans la même foi, Jésus a versé son sang. Jésus se l'est acquise, cette Église, par son propre sang. Et j'ajouterai encore un autre texte dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, au verset 49, où il est dit à propos de Jésus toujours, qu'il est mort pour réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Vous voyez, il est mort pour réunir les enfants de Dieu, pour réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. La volonté du Seigneur est donc à l'opposé de cet individualisme que je dénonçais précédemment. S'isoler, se disperser, s'exclure, se marginaliser, prendre du recul, comme disaient certains, tout cela, même si le terme vous paraît fort, au fond, consiste à mépriser le sacrifice de Christ, qui justement a donné sa vie pour nous unir. Et c'est pour ça que dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, au verset 1er, il est dit que celui qui se tient à l'écart, il s'irrite contre tout ce qui est sage, n'est-ce pas ? Et il cherche ce qui lui plaît. Alors c'est complètement opposé à la volonté du Seigneur qui est de nous unir en lui et par lui au sein de son Église. D'autre part, il faut ajouter ceci, c'est que l'une des fonctions du Saint-Esprit est aussi de nous unir les uns aux autres dans un seul corps. Le corps dont il est question évidemment ici, c'est le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 13, je trouve cette parole, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, il s'agit de l'Esprit de Dieu évidemment, pour former un seul corps, soit juif, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Vous voyez, la fonction, le ministère, le rôle du Saint-Esprit, c'est d'unir les croyants au sein de l'Église. Alléluia. C'est de faire en sorte que le courant passe au milieu de nous, que nous ne soyons pas simplement assis à côté les uns des autres, physiquement, mais que nous soyons unis en Christ. Quand on va, je ne sais pas moi, hein, au cinéma ou au théâtre, on s'assied à côté de gens qui sont pour nous de parfaits inconnus. On n'a rien de commun avec ces gens-là, sinon que l'on assiste au même spectacle. Quand le spectacle sera fini, on se séparera et puis ce sera terminé. Il n'en est pas ainsi de l'Église. Il y a, c'est pas un courant spirituel qui nous anime, qui nous relie les uns aux autres. Ce courant spirituel est créé par le Saint-Esprit. Et il faut considérer les choses de cette manière. De plus encore, voyez. Lorsque nous participons à la Sainte Cène, comme nous l'avons fait ce matin, nous exprimons aussi, au travers de cette Sainte Cène que nous prenons, nous exprimons ainsi la réalité de cette unité des croyants au sein de l'Église de Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16, nous rappelle cela, n'est-ce pas ? L'apôtre Paul dira ceci, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Alléluia. La Sainte Cène, c'est peut-être un aspect que l'on oublie parfois. On pense au sacrifice de Jésus, il a donné sa vie pour moi, et c'est vrai, il faut le faire. On se remet peut-être en question devant cette commémoration du sacrifice de Christ, c'est vrai, il faut le faire, mais n'oublions pas que la Sainte Cène, c'est aussi au moment de communion avec le Seigneur, mais aussi de communion spirituelle avec nos frères et sœurs. Il nous a unis en un seul corps, en un seul corps. Plusieurs symboles, plusieurs images sont employées dans la parole de Dieu pour représenter l'Église. Le corps, tout d'abord, dont nous avons parlé dans la première aux Corinthiens, au chapitre 12, au verset 27, il nous est dit ceci, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors, encore. Un corps comporte une tête et puis des membres qui assurent diverses fonctions. Bon, eh bien, dans le corps de Christ, qui est l'Église, c'est pareil. Il y a une tête. Qui est la tête ? Jésus, il est la tête, il est le chef, parce que tête et chef, ça veut dire la même chose. C'est pour ça qu'un chapeau, on l'appelle le couvre-chef. Hein? Il est la tête. Et nous, chrétiens, vous, moi, c'est pas, nous sommes les membres de son corps. Et un certain nombre de principes régissent le corps. D'abord, les membres sont soumis à la tête, oui ou non ? Quand on bouge le bras, c'est parce que la tête a ordonné au bras de se mouvoir. Et si le membre ne réagit pas aux ordres que donne la tête, il y a un problème. Hein? C'est que le bras est infirme, c'est que le bras est paralysé, c'est que l'influx nerveux ne passe pas. Mais quand ça fonctionne normalement, la tête commande et le bras obéit. Eh bien, dans le corps de Christ, ça doit, en tout cas, ça devrait être ainsi. Nous devrions nous soumettre chacun pour notre part et nous tous ensemble à la tête, c'est-à-dire au Seigneur Jésus, nous soumettre à lui. Et puis, un autre principe dans le corps, c'est qu'il y a une unité. Une unité, vous voyez, chaque membre ne part pas dans son coin. Hein, vous voyez un petit peu que mon bras parte par là-bas, mon pied ailleurs, ce serait la catastrophe. Hein? Non, il y a une unité. Il faut qu'il y ait une unité. Une unité non pas seulement visuelle, mais une unité dans l'amour, comme l'Esprit de Dieu nous l'a rappelé d'ailleurs tout à l'heure ce matin. unis dans l'amour que nous nous portons, que nous nous vouons les uns aux autres parce que nous sommes membres d'un même corps. Unité dans la diversité, parce que nous sommes, et c'est bien comme ça, tellement différents les uns des autres. Hein? C'est vrai que Dieu aime la diversité. Vous avez remarqué ça? Dans la nature, ça éclate. Pourquoi il y a toute cette multitude de fleurs? Si j'avais été à la place du Seigneur, c'est un petit peu ridicule, je vous le concède, ce que je dis. Moi, j'aurais fait une fleur et il aurait eu partout les mêmes. Hein? Pas de problème comme ça. Mais lui, il a fait les roses, les jonquilles et puis les géraniums et je ne sais pas quoi encore, différents par leur couleur, différents par leur pétale, leur aspect, différents par leur odeur, une grande diversité dans tout domaine. Et Dieu a voulu que, eh bien, il y ait la même chose, un petit peu, au sein de l'Église, tellement différent par nos caractères, par nos compétences, par nos qualités naturelles, par aussi les capacités, les dons que Dieu nous accorde dans sa grâce par son esprit. La diversité et la complémentarité. Vous savez, on dit parfois, personne n'est indispensable. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai envie de vous dire ce matin, vous êtes tous indispensables. Vous êtes tous indispensables. On ne peut pas, on ne veut pas se passer de vous. Et le Seigneur non plus. C'est peut-être pour ça qu'il est écrit dans sa parole, n'abandonnez pas votre assemblée. Et le texte ajoute, comme c'est la coutume de quelques-uns. Ça me rassure, parce que déjà à l'époque, il y avait des problèmes à ce sujet. Et le rédacteur, inspiré par le Saint-Esprit, dit « N'abandonnez pas votre assemblée ». Il y a plusieurs façons, tenez, d'abandonner l'assemblée, l'Église. Il y a la façon fracassante. Je me souviens, quand j'étais tout gamin, dans l'Église où j'étais, hein, un frère qui avait eu des problèmes, enfin bref, un jour au cours d'un culte, je ne sais pas quelle mouche l'a prise, hein, il s'est levé et il est parti comme une flèche, et blam, il a fracassé, et puis on ne l'a plus vu pendant 9 ans. Alors que c'était un homme qui prêchait l'Évangile, qui était serviteur de Dieu. 9 ans ont passé, mais vous savez, Dieu est patient et il est bon. Hein? Et lorsque le temps de l'épreuve a surgi dans la vie de cet homme, il est revenu tête basse, le Seigneur lui a fait grâce, l'a pardonné, et il a fini ses jours en étant un des anciens de l'Église, béni soit Dieu, voyez. Mais, voyez, ça, c'est la façon fracassante. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas, alors zou, boum, bam, pim, fracassante. Il y a quelque chose de plus subtil. Par exemple, dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, après une certaine prédication du Seigneur Jésus, qui avait été fort rigoureuse, il est dit qu'un certain nombre de ses disciples, pas de ses ennemis, de ses disciples, ou prétendus tels, se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui. Ils ne se sont pas retirés avec fracas, ils se sont retirés sur la pointe des pieds. Mais ils se sont retirés quand même. Il y a encore une manière encore plus subtile. L'apôtre Pierre, lorsque Jésus a été arrêté, il nous a dit que Pierre suivait de loin. Vous avez parfois été interpellé par ce texte, il suivait de loin. Et il y a parfois des chrétiens, ils suivent de loin en loin. De temps à autre, ils font une apparition. Mais ils suivent de loin. C'est dangereux, ça. C'est dangereux, c'est pas dans la volonté de Dieu. L'Église est un corps. L'Église aussi nous est présentée comme dans ce corps, j'ai ma place en tant que membre et je dois y rester. Bon. L'Église nous est présentée aussi sous la forme d'un troupeau. Dans le livre des Actes des Apôtres, justement dans ce texte que j'ai mentionné tout à l'heure, lorsque l'apôtre Paul convoque les anciens de l'Église d'Éphèse, il leur dit ceci, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire surveillant, pour paître l'Église du Seigneur. » L'Église est ici comparée à un troupeau, voyez, de brebis qui sont les brebis du Seigneur. Nous étions des brebis perdues, et gloire à Dieu, le Seigneur est venu nous chercher pour nous sauver. Alors, Jésus, il est le grand pasteur des brebis, nous dit l'Écriture. C'est comme ça qu'il est appelé. le souverain pasteur, le souverain berger. Et nous, Stéphane, moi et d'autres, nous sommes les sous-pasteurs ou les sous-bergers. Hein? Le grand pasteur des brebis, le grand pasteur de l'Église, c'est Jésus. Et chacun d'entre nous, vous et moi aussi, les pasteurs sont aussi des brebis. Hein? Nous sommes les brebis du Seigneur incluses dans ce troupeau. La sécurité des brebis, c'est quoi? La sécurité des brebis, eh bien, c'est de demeurer au sein du troupeau, non? De demeurer auprès du berger. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit que le diable rôde, mes amis, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et lorsqu'un prédateur, comme un lion ou autre chose, rôde autour d'un troupeau, qu'est-ce qu'il fait? Il repère prioritairement les brebis qui sont isolées, qui ne sont pas au sein du troupeau, et il se dit, celle-là, je les mets dans la collimateur jusqu'à ce que je la croque. Hein? Alors, si nous ne voulons pas que le lion nous croque, excusez-moi, nous dévore, nous dépèce spirituellement parlant, nous détruise, nous ruine, je vous en supplie, restez au sein du troupeau. N'ayez pas cette attitude qui consiste à dire, on l'a mille fois entendu, ça, j'abandonne l'Église, mais je ne t'abandonne pas le Seigneur. Il y a quelques années de cela, dans une certaine église où je servais le Seigneur, j'ai été visité un couple qui ne venait plus depuis des années. Avant même que j'arrive dans cette église, ils avaient déjà tourné Kazakh parce qu'il y avait eu des histoires abracadabrantes. Alors, le même discours, on n'a pas abandonné le Seigneur, frère, même si on a quitté l'église. Alors, j'ai dit à ces gens-là, dites-moi un petit peu, vous, ça vous arrive de lire la Bible? Ils ont piqué du nez. Ça vous arrive de prier? Ils ont encore piqué du nez. Alors, on n'a pas abandonné le Seigneur, mais on ne lit plus sa parole, on ne prie plus. Et où est la relation avec Dieu, là, mes amis? On se fait dévorer. On se fait dévorer. Mais je ne veux pas gonfler son pouvoir. Mais savez-vous que le diable est plus costaud que nous? Il est plus malin, il est plus futé, il est plus rusé, il est plus puissant. Il n'est pas tout puissant, mais il est plus fort. Alors ne jouons pas avec ces artifices, ce serait dangereux. Et oui, au dehors, en dehors du troupeau, il y a du danger. C'est pour ça que Jésus a donné la parabole de la brebis perdue, vous savez. Le soir, quand il a compté le berger, ses brebis, là, il y avait un troupeau de 100, et il est arrivé à 99, il en manque une. Et s'il est allé à sa recherche, c'est parce qu'il savait qu'elle était en danger de mort, qu'isolée, à l'écart, dans la campagne, dans la montagne, eh bien, elle allait devenir une proie facile pour le prédateur, le lion, l'ours, le loup, parce qu'il y en avait à cette époque-là en Israël. Alors il est allé à la recherche de la brebis perdue, et lorsqu'il l'a trouvée, il lui a mis une bonne rouste. Non, c'est pas ça, hein. Peut-être c'est ce que vous auriez fait, moi aussi. Non, l'Écriture dit qu'il l'a mise avec joie sur ses épaules et il l'a ramenée au bercail, vous voyez. Le Seigneur se réjouit quand il retrouve une brebis égarée. On applique souvent ce passage aux inconvertis, à ceux qui ne connaissent rien des choses de Dieu. On leur dit, et c'est vrai quelque part, tu es la brebis perdue, le Seigneur te cherche, etc. Mais mes amis, dans la parabole, si vous la lisez de près, cette brebis, autrefois, elle faisait partie du troupeau. Donc, c'est plus un rétrograde, comme nous disons si bien, que quelqu'un qui n'a jamais rien connu des choses de Dieu. Et si ce matin, tu t'es écarté du troupeau, reviens dans son sein. C'est la volonté de Dieu. Reconnaissez que ce que je vous raconte, c'est la parole de Dieu. Vous en ferez ce que vous voulez. Mais c'est la parole de Dieu, mes amis. C'est la parole de Dieu. Un corps, un troupeau, aussi un temple spirituel. Hein? On l'a lu tout à l'heure, en lui, en Jésus, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Cette idée est reprise dans la première épître de Pierre au chapitre 2, au verset 4, où il est dit ceci, « Approchez-vous de lui, de Jésus, pierre vivante, rejeté par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Amen. Alléluia. Un temple spirituel. Jésus est défini dans ce passage comme la pierre angulaire, la pierre d'angle. Il y a des maçons parmi nous. Et ils pourraient certainement confirmer ce que je vais dire. La pierre d'angle, c'est la pierre sur laquelle toutes les autres vont s'aligner pour que le mur soit droit. Et sur lesquelles aussi, elles vont non seulement s'aligner, mais elles vont aussi prendre appui. Les autres pierres sur la pierre d'angle vont prendre appui et ça assure ainsi la cohésion, la solidité de l'ensemble. Jésus est la pierre angulaire. Et nous, le texte nous dit, nous sommes, nous croyants, nous enfants de Dieu, des pierres vivantes. Amen. Alors, quelle est la fonction d'une pierre? C'est d'être à sa place dans l'édifice. Non? Il faut que chaque pierre ait sa place et que chaque place ait sa pierre. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Eh oui. Pour qu'il y ait ces pierres, maintenant on construit, là, on met deux panneaux, on coule du béton et puis l'affaire est réglée. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. D'abord, il fallait extraire les pierres de la carrière. Bon. Après, il fallait les tailler. Il y avait des tailleurs de pierres. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Ensuite, il fallait que la pierre taillée, eh bien, on la mette à la place qui lui convienne. Et c'est ainsi que l'édifice se construisait. On retrouve ces principes dans le domaine spirituel. Le Seigneur nous a extraits de la carrière du monde. Nous étions englués dans notre gang de péchés. Et il nous a attirés à lui, il nous a nettoyés, il nous a purifiés. Puis après, il a commencé son travail de taille. Il nous a émondés, si vous voulez. Et puis, il a voulu nous inclure dans l'ensemble. Et les pierres mises les unes contre les autres ont besoin d'un liant. Elles ont besoin de ciment. Et le ciment au sein de l'Église, c'est l'amour, mes amis. C'est l'amour qui doit nous cimenter, nous lier, nous unir, nous associer les uns aux autres. Un amour authentique, un amour vrai. Ça ne se limite pas à se faire la bise le dimanche matin. Mais c'est quelque chose qui vient du cœur. Qui vient du cœur et que nous nous approchions du Seigneur. Pour qu'il mette en nous son amour. Hein? Nous méditons sur ces textes le vendredi soir. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Je ne suis pas capable, moi, d'aimer comme le Seigneur me demande d'aimer. J'aime ceux qui m'aiment. Et encore, ça c'est naturel. Mais pour aimer ceux qui ne m'aiment pas, ou pour aimer sans aller jusque-là ceux avec lesquels sur le plan humain je n'ai pas particulièrement d'atome crochu, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu, oui ou non? Et je veux pas paraître trivial, mais sur le plan humain, parfois, dans l'Église, on trouve des gens avec lesquels on n'a aucun atome crochu, il n'y a rien! Dans toutes sortes de domaines, c'est pas ça, c'est pas pareil. On les aurait jamais choisis comme nos amis. Mais le Seigneur nous a choisis, lui, les uns et les autres. Et le défi consiste à faire en sorte qu'avec des gens si dissemblables, eh bien, nous ne fassions plus qu'un. Nous fassions un édifice spirituel. Et pour ça, il y a besoin de la grâce de Dieu. Il y a besoin de l'amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, le ciment de l'amour. Et il faut que le Seigneur nous en mette une bonne dose. Hein? Parce que plus il y a de ciment, les frères maçons, hein? Plus il y a de la poudre, plus c'est solide. Et plus ça craque pas lorsque il y a des fissures qui se produisent. Un temple spirituel, des pierres vivantes. Si l'on retire des pierres, ça fragilise l'ensemble, non? ça fragilise l'ensemble. Prenez votre place dans l'Église et restez-y. Alléluia. Hein? Restez-y. Il faut bâtir. Il faut construire. Il faut ajouter des pierres et non pas démolir. Et non pas démolir. Et non pas perturber. Je visitais hier une sœur âgée qui est des nôtres. Je ne mentionnerai pas son nom, pas par pudeur. Et je bénissais Dieu, vous voyez, pour cette sœur qui, depuis des décennies, est restée fidèle. Elle a gardé sa place. Mais c'est avec des gens comme ça que l'Église se bâtit. C'est avec des gens comme ça que la cohésion de l'ensemble se réalise. Des épreuves, je ne parle pas simplement au niveau personnel, mais des épreuves au sein de l'Église. Elle en a vu, elle en a connu, elle en a entendu de toutes, j'ai envie de dire, des vertes et des pas mûres. Mais elle est restée là. Elle est restée là, non pas parce qu'elle était sourde et aveugle. Elle savait entendre et voir comme les autres. Mais parce qu'elle a considéré que sa place était au sein de l'Église et qu'il fallait y rester parce que telle était la volonté du Seigneur. C'est avec des gens comme ça qu'on construit l'Église. Hein? Une sœur, une chrétienne d'une autre assemblée que la nôtre me disait, ah tu sais, c'est difficile parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a le reste, et des fois j'ai envie de partir, j'ai même plus envie d'aller aux réunions. Ben je lui disais, il faut que tu restes, parce qu'au travers même des difficultés que tu traverses, même si c'est pas facile au sein de l'Église, Dieu est en train de te former, de te façonner, de te construire intérieurement, et de cette épreuve que tu traverses, non pas seulement personnellement mais au niveau de l'Église, tu vas, si tu laisses Dieu agir dans ta vie, bien sûr, en sortir plus forte. Alléluia. Hein? On ne fabrique pas des champions avec des chamallows, mes amis. Hein? On leur impose un traitement de choc. J'avais dans l'église d'Avignon un frère, il était international de rugby. Il me disait, mais on avait un entraîneur. Mais il nous usait à fond, des fois on lui disait, ça suffit, on s'arrête, on en a marre de courir. Il leur disait, tant que vous pouvez parler, vous pouvez encore courir, continuez. Et c'est comme ça qu'on fait des champions. Et nous sommes destinés à être des champions spirituels. Des champions spirituels. Pas des gens qui sont fragiles à l'extrême. Et qui se laisse embarquer par n'importe quelle aventure ou mésaventure. Alors, en conclusion, parce qu'il faut que je me taise au bout d'un moment. Hein. Un auteur chrétien a rédigé un ouvrage qui s'appelle « L'Église, une passion, une vision ». Alors, je ne vais pas vous dire ce qu'il y a dans le bouquin, il y a du bon, il y a du moins bon, mais le titre me plaît. « L'Église, une passion, une vision. Je crois qu'il faut que nous ayons, que vous ayez, frères et sœurs, que j'ai moi aussi, la saine et claire vision de ce qu'est l'Église dans la pensée du Seigneur. Un corps, un troupeau, un temple spirituel. On pourrait ajouter, je ne l'ai pas fait, mais je le signale en passant, l'Église est aussi l'épouse spirituelle du Seigneur Jésus-Christ. Il est l'époux céleste, divin. Pour le moment, on peut le dire comme ça, nous sommes au temps des fiançailles. Un jour, bientôt, sera célébré le festin des noces de l'agneau. C'est-à-dire que là-haut, dans la gloire du ciel, sera célébrée l'union spirituelle de l'époux céleste, le Seigneur Jésus-Christ, et de l'épouse, c'est-à-dire l'Église. Et à cet égard, dans l'Épître aux Éphésiens, il est dit que Christ a aimé l'Église. A aimé l'Église. Comme un jeune homme qui s'unit à une jeune fille, l'aime. Je dirais, mais l'aime à la folie, c'est comme ça. Au départ, et c'est comme ça qu'il faut que ça reste d'ailleurs après. Jésus aime son Église passionnément. Alléluia. Au point qu'il a donné sa vie pour elle. Voilà. C'est sa bien-aimée. Il l'aime passionnément. Alors s'il l'aime passionnément, vous et moi, nous devons être des gens passionnés. Alléluia. on ne fait rien avec des gens qui ne sont pas passionnés. Tous ceux qui ont réussi quelque chose dans la vie, dans toutes sortes de domaines, sportifs, culturels, professionnels ou autres, c'est des gens passionnés. Passionnés. Voyez, moi, quand j'écoute les commentaires sportifs à la radio, à la télé, je boue des fois. Parce que les sportifs français, ils sont même contents de perdre. Ça a été mal, mais ça pourrait être pire. Hein. Ce n'est pas des gens passionnés, ça. Quelqu'un qui est passionné, mais il en veut, il en veut. Il a la passion qui le dévore. Ayons la passion pour Jésus. Ayons la passion pour son Église. C'est inséparable, comprenez-le, l'un de l'autre. Il est faux ce raisonnement, j'appartiens à Jésus, mais l'Église, bababababa. Non, des gens passionnés. Soyez concernés, soyez engagés, soyez mobilisés, soyez investis, soyez motivés par et pour l'Église. Même si les choses ne sont pas toujours comme vous souhaiteriez qu'elles soient et comme il faudrait qu'elles soient, passionnez-vous. Alors soyons lucides. Parfois, le plaisir, la joie que nous trouvions au début de notre marche chrétienne au sein de l'Église. Parfois, ce plaisir, cette joie a été ternie par des déceptions, par des blessures qui nous ont été infligées au sein de l'Église. On peut comprendre, on comprend, on admet que le monde nous persécute. C'est le tarif, j'allais dire. Mais on trouve que c'est intolérable qu'au sein même de l'Église, on puisse entre frères et sœurs se faire souffrir comme ça. Et vous savez que ça parfois était vrai dans toutes les Églises. Alors ça a provoqué de la douleur. Et la douleur a provoqué de l'amertume. Alors on veut se préserver. Désormais contre d'éventuelles nouvelles mésaventures. Et on se retire. On prend du recul. On prend de la distance. Ce n'est pas une bonne méthode. Vous savez, Jésus, c'est notre modèle, hein? Non? Eh oui. Jésus, au sein même du groupe de ses disciples, vous ne croyez pas qu'il y en a eu des blessures? Judas, dites, il lui lave les pieds. Moi, je te l'aurais pris, je l'aurais tiré dessus, je ne sais pas quoi, hein? Lui, il lui lave les pieds. Il s'abaisse devant Judas qu'il a vendu pour 30 pièces d'argent. Pierre, ah, je vais avec toi à la mort en prison. Taratata. Quelques heures après, il le renie trois fois. Je ne connais pas cet homme. Et les autres, le texte dit quelque part, tous l'abandonnèrent. Jésus aurait pu dire, ah, puisque c'est comme ça, laisse tout tomber, hein, qu'ils restent dans leur misère. Mais il ne l'a pas fait. Oui, la souffrance. Croyez que Jésus est passé là au milieu. La trahison de Judas, ça ne l'a pas effleuré. Le reniement de Pierre, ça ne l'a pas touché. Non, mes amis. Quand Judas le livre à ses ennemis, à ses bourreaux, par un baiser, Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Je pense qu'il devait y avoir de la douleur dans ces paroles. Quand Pierre le renie, il est là quelques mètres, Jésus se retourne et le regarde. Je ne crois pas que son regard était un regard dur, comme pour dire espèce de minable. Non, je crois que c'était un regard chargé de douleur. D'ailleurs, ça a touché Pierre, il est sorti, il a pleuré comme un gosse. Ça l'a blessé, mais il a continué à assumer sa mission. Faisons pareil, mes amis. Soyons de ceux qui savent relever le défi. Quand on l'a amené sur la croix, là-haut, sur la colline du calvaire, les soldats lui ont proposé une boisson particulière, du vin avec de la myrrhe. C'était une espèce de narcotique qui faisait en sorte que les douleurs étaient un petit peu apaisées. Parce que quand on vous enfonçait les clous dans les mains, dans les pieds, et la Bible dit que Jésus, quand il le goûtait, ne voulut pas boire de ce breuvage-là. Mais en même temps, la myrrhe, c'est extrêmement amer. Il y a un symbole, là, voyez. Jésus n'a pas voulu boire à la coupe de l'amertume. Parfois, le diable, il vient avec une grosse coupe d'amertume. Il y en a plein, mais plein. Il nous dit, boire, boire. Et des fois, nigo comme on est, on prend la coupe et on la boit et on se laisse empoisonner. Le cœur se remplit d'amertume, de mauvais sentiments. Parce qu'on a été blessé, parce qu'on a été meurtri. Jésus allait être meurtri, blessé, là, sur la croix. Les clous, le fer, l'épine, les coups, les crachats. Mais il a refusé la coupe de l'amertume. Et il a consenti au sacrifice. Pour vous, pour moi, pour l'Église. Refusons la coupe de l'amertume. Elle nous empoisonnerait. Ressemblons à Jésus. Si vous en êtes là, si vous êtes meurtri, Dieu veut vous guérir. Alléluia! Il veut vous restaurer et vous aider à retrouver le zèle que peut-être vous avez perdu. Je ferai un jeu de mots facile. Peut-être que le zèle a pris des ailes. Mais il faut que vous retrouviez votre zèle au sein de l'Église. D'autres fois, tout simplement, c'est les facilités de la vie ou les soucis quotidiens qui nous ont fait que... Jésus nous avertit dans l'évangile de Luc en nous disant, prenez garde que le confort, quoi, les soucis de la vie, les excès du manger et de boire n'appesantissent pas vos cœurs. Il y en a qui font très attention, voyez, aux... domaine de la nourriture, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de surpoids, de surcharge pondérale. Aïe, 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 j'ai pris 100 grammes de plus. Et parfois, la surcharge pondérale, elle se produit dans le domaine spirituel et il y a de la lourdeur. Seigneur, donne-moi d'être à nouveau svelte, spirituellement parlant. Peut-être et même sûrement, nous ferions bien de prier cette prière de David. Dans le psaume 51, verset 12, il dit « Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Peut-être qu'il y a un état d'esprit qui n'est pas bien disposé par rapport à l'Église, par rapport à mes frères et sœurs. Je peux trouver toutes sortes de raisons. Mais Seigneur, je veux considérer que ces raisons ne sont pas des raisons. Et je veux t'imiter et réagir comme toi et continuer envers et contre tout à aimer, à t'aimer, bien sûr, à aimer mes frères et sœurs et à aimer l'Église que, et moi et eux, nous constituons ensemble, que ton nom soit béni. Amen. On prie. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ta parole que